Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er mai et notre manière de fêter le travail et de patienter jusqu'à dimanche prochain, c'est de vous proposer une semaine érotique à découvrir jour après jour, minute après minute, en direct ou en téléchargement, à votre rythme, les pupilles grandes ouvertes ou en fermant les yeux. Allez en route à la rencontre du dieu Eros, qui n'est jamais là où on l'attend et qui n'est pas celui que l'on croit. Bonjour Fulcran Tesserin.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Poincaré à Nancy. Dans érotisme, il y a Eros. Et dans les dialogues platoniciens que vous connaissez très bien, Eros est un dieu. Alors de quoi est-il le dieu? De l'amour ou du désir?
C'est un demi-dieu, c'est un démon. Hein. C'est le dieu de l'amour, évidemment. Il est défini comme ça par Platon. Mais Platon reconnaît aussitôt que Eros est un terme qui a été trop étroitement relié à l'amour en tant que lien affectif, sensuel et sexuel entre deux personnes, et que c'est un terme qui pourrait et qui devrait s'étendre à l'ensemble du désir, hein, ou des désirs. Néanmoins, Platon fait un sort tout à fait particulier à cette espèce de désir qui est celui qui attire charnellement, et au-delà même de l'attirance charnelle, qui attire les âmes les unes auprès des autres. Voilà.
Vous avez travaillé sur le sophiste de Platon, vous y avez consacré un ouvrage publié au PUF, ainsi que sur les thèmes du langage et de l'image dans l'œuvre de Platon. Là, c'est un ouvrage qui est disponible chez Vrin. Mais la question de l'érotisme chez Platon se trouve dans quasiment tous les dialogues. On peut presque parler d'une érotique du dialogue chez Platon, tellement le désir est en jeu dans la façon qu'a Socrate de faire accoucher son interlocuteur de la vérité.
Oui, et le désir est toujours en jeu parce qu'il n'y a pas de pensée sans désir. Ça, c'est une constante chez Platon. Il ne peut pas y avoir un goût de la vérité si précisément il n'y a pas une appétence pour la vérité. Donc il y a forcément dans tout réflexion, un effort, une tension qui est animée par un désir. Et donc il y a ce désir qui constitue, évidemment ça serait anachronique que de dire que c'est là l'essence de l'âme, ça, c'est, vous connaissez la définition qu'a donnée Spinoza de l'être humain, hein, qui se caractérise par son désir, mais néanmoins on peut considérer que l'âme est un ensemble de forces, un ensemble de désirs, plus ou moins en harmonie, plus ou moins accordés les uns aux autres, mais qu'on ne comprend rien à l'âme si on ne voit pas qu'elle est d'abord une espèce d'élan, une force qui va et qu'il s'agit évidemment de diriger.
Ouais. Si l'âme est composée de désirs, c'est donc que l'âme est incomplète, parce qu'on ne peut désirer que ce qu'on n'a pas, c'est donc qu'il manque quelque chose à l'âme humaine.
Alors là, c'est la grande définition que l'on retient du désir, et précisément Platon fait cette observation dans le cadre d'un éloge de l'amour où il corrige une idée fort répandue selon laquelle Eros serait beau. Et il dit non, Eros n'est pas beau précisément parce qu'il est désir de la beauté et on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas ou que ce que l'on n'est pas. Alors souvent on reproche à cette définition d'être une définition qui pointe la privation, le manque qui serait à la source du désir. En réalité, je pense qu'il faut être plus attentif à ce que raconte Platon à ce sujet. Il prend note de la nature relative du désir. Il n'y a de désir que par rapport à quelque chose d'autre. Hein.
Et ou donc, quelqu'un.
Un objet ou une personne. Mmh. Et que par conséquent, il y a forcément une distinction, une différence que le désir articule. Et à partir du moment où il y a une différence, il est clair que, de ce point de vue-là, le désir ne peut pas être l'objet même qu'il désire. Mais ce qui veut dire aussi que il ne peut pas y avoir de désir de soi. Hein, il ne peut pas y avoir de désir de soi. Il faut qu'il y ait une multiplicité, une différenciation à l'intérieur de l'âme pour qu'il y ait quelque chose comme une relation désirante à soi-même. Un souci de soi, par exemple, ou le désir d'une maîtrise de soi. Donc il faut qu'il y ait cette pluralité interne pour que puisse s'amorcer un rapport à soi-même qui soit empreint de désir. S'il y avait une identité parfaite du sujet, eh bien ce sujet serait totalement inerte, serait totalement dépourvu de désir. Donc il faut qu'il y ait une forme de multiplicité interne au sujet pour qu'il y ait une relation à soi qui soit empreinte de désir. Mais naturellement, le désir n'est pas uniquement et seulement dans la relation à soi, il est d'abord et avant tout dans la relation aux autres. Mais il y a déjà une altérité en soi et c'est la raison pour laquelle on peut aussi avoir une relation à soi qui soit empreinte de désir.
On a dit que le désir traversait la méthode même platonicienne ou socratique qui consiste à interroger autrui en faisant appel à son désir de connaître la vérité ou son désir de renouer avec la vérité qu'il connaissait déjà. Mais il y a certains dialogues qui portent davantage sur le désir que d'autres. Sur le désir, mais plutôt sur Eros, puisque c'est bien d'érotisme qu'il s'agit cette semaine. Dans le banquet de Platon, le but des retrouvailles entre ces quelques personnes, ces quelques interlocuteurs, au départ est de boire ensemble, et puis comme les gens ont beaucoup bu la veille, ils décident plutôt que de boire, de proposer de faire des éloges de ce dieu Eros. Et donc chacun à son tour va proposer un texte, un poème, une réflexion, un dialogue autour des vertus de ce dieu Eros, qui va être l'occasion de décliner différentes définitions d'Eros. Et il y en a une que je vous propose d'écouter maintenant, parce qu'elle consiste à proposer un portrait d'Eros comme le fils de Poros et de Peña. Dites-nous, Fulcran Tesserin, qui sont Poros et Peña?
Alors évidemment, ça fait partie du discours de Socrate, de l'éloge que Socrate prononce à propos d'Eros et en faveur d'Eros, mais c'est un éloge, qui est un éloge rapporté.
Socrate ne parle pas en son nom.
Socrate ne parle pas en son nom. Socrate, bien que il est dit qu'il est ignorant, lui, en bien des choses, et qu'il y a un domaine où il a une certaine compétence, qui est le domaine des choses de l'amour, il avoue la dette qui est la sienne à l'égard de Diotime.
Qui est Diotime ?
Diotime, c'est la prêtresse de Mantinée. C'est une étrangère qui vient de Mantinée, et on n'a pas beaucoup d'informations à son sujet. On pense que c'est probablement une invention platonicienne. Bon, étant donné qu'on n'a pas d'autres références très claires à son sujet, on est livré à des spéculations. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de noter à propos de Diotime, c'est que d'une part, c'est elle qui instruit Socrate de ce qu'est l'amour et de ses effets, de ce qu'il produit. Et d'autre part, ce qui est aussi important de relever, c'est que c'est une femme. C'est une femme qui instruit Socrate des choses de l'amour. Alors même que dans le banquet, la plupart des éloges sont des éloges qui valorisent l'amour homosexuel. Donc c'est assez intrigant de voir que celle qui enseigne Socrate, c'est précisément une femme. Ce qui ne veut pas du tout dire d'ailleurs que dans le discours que rapporte, ou les échanges que rapporte Socrate, ce soit l'amour hétérosexuel qui se taille la part du lion. Au contraire, ça reste encore un amour essentiellement homosexuel. Mais enfin, en tout cas, il est amusant de voir que c'est une femme qui instruit donc Socrate. Alors maintenant, j'en reviens...
Poros et Peña, voilà. On va écouter le texte.
Oui, je reviens à Poros et Peña. Poros et Peña, ce sont... Poros, c'est une figure mythique... divine qui représente la ruse, le passage étymologiquement, donc c'est l'habileté, l'expédient, et Peña, c'est tout l'inverse, c'est le dénuement, c'est la pauvreté, c'est la misère. Et ce sont donc les deux aspects d'Eros, puisque Eros lui-même est issu de ce mélange, de
cette association. Entre l'abondance et le dénuement.
Entre l'abondance et le dénuement, et surtout entre la ressource, hein, entre l'habileté, entre la capacité à trouver des expédients, à manigancer pour arriver jusqu'à ses fins. Hein. Donc il y a quelque chose d'inventif dans l'amour, et c'est évidemment ce que l'amour doit à Poros.
Voilà. D'autant que vous allez entendre le texte dans le récit qui en est fait par Socrate à travers la bouche de Diotime, ou plutôt par Diotime à travers la bouche de Socrate. Peña, donc qui représente le dénuement, va imposer à Poros d'enfanter Déros. C'est-à-dire que c'est pas le choix de faire un enfant, c'est comme si l'amour venait du désir qu'a la femme, ici c'est le dénuement, d'avoir un enfant avec son opposé, ce qui n'est pas sans lien avec la conception même que Platon se fait de l'Eros. Écoutez ce texte interprété par Thierry Ancis.
Le jour où Aphrodite naquit, les dieux festoyaient. Il y avait parmi eux Poros, le fils de Métis. À la fin du banquet arriva Peña, une mendiante qui était venue mendier, comme cela est naturel un jour de bombance, elle se tenait sur le pas de la porte. Poros, enivré, se traîna dans le jardin de Zeus et s'y endormit. Alors Peña, dans sa pénurie, eut l'idée d'avoir un enfant de Poros. Elle s'étendit près de lui et conçut Eros. Eros est toujours pauvre. Et il est loin d'être beau et délicat comme la plupart des gens le croient. Au contraire, il est sale, rude, va-nu-pied, sans abri, couchant toujours par terre et à la dure, dormant à la belle étoile sur le pas des portes et au creux des chemins. Il tient bien sûr tout cela de sa mère. En revanche, à l'image de son père, il est à l'affût de tout ce qui est beau, bon, délicat et parfait. Il est viril, ardent, résolu, fertile en expédients. C'est un chasseur et un sorcier redoutable, un magicien et un expert rusé, passant son temps à philosopher, passionné par ce qui compte parmi les choses les plus belles, le savoir.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, à la question qu'est-ce que l'érotisme? Il faut déjà définir qui est Eros. Et dans les dialogues platoniciens, Eros est un dieu, un demi-dieu, le fils de Poros et de Peña. On vient d'entendre le texte en votre compagnie, Fulcran Tesserin. Vous nous accompagnez pour essayer de saisir l'essence même de ce désir, ou de ce dieu du désir, ce dieu Eros chez Platon. Dans le texte qu'on vient d'entendre, on entend bien qu'il est fait à la fois de l'indigence de sa mère, de la virilité de son père, mais surtout qu'il passe tout son temps à philosopher. En quoi Eros est-il d'emblée philosophe? Alors, c'est bien une définition de philosophe,
bien sûr. Dans le texte que vous avez lu, il y a plein de résonances, et je crois qu'on peut explorer ce texte à la lumière de la question que vous posez, puisqu'en effet, il se conclut sur la philosophie. Et il me semble qu'on peut en effet rattacher l'entreprise socratique au démon érotique de la manière suivante. Socrate, c'est celui qui met Poros au service de Peña. Il est très habile dans la discussion, très astucieux, très malin dans la façon qu'il a d'interroger son interlocuteur. Mais toute cette habileté de l'interrogation, il la met au service d'un désir qui est le sien, qui est celui de faire paraître le faux savoir, l'ignorance véritable, recouverte par des opinions abusives de son interlocuteur. Et donc, à partir de l'échange réfutatif qu'il a avec lui, il va essayer de faire apparaître chez son interlocuteur la dimension de dénuement que celui-ci cachait à ses propres yeux, prétendant connaître, savoir, ou en se rassurant par un certain nombre d'opinions qu'il érigeait en savoir. Bon. Et la vocation cathartique, purgative de la parole socratique, est destinée à faire éclater cet ensemble d'illusions et faire apparaître Peña dans l'âme de son interlocuteur, qui alors pourra retrouver le désir authentique qui constitue l'âme de tout être humain, hein, ce désir de la vérité, ce désir de découvrir enfin ce qui est authentiquement réel. Voilà. Et à partir du moment où ce désir aura été réveillé chez l'âme de l'interlocuteur, eh bien, l'essentiel pour Socrate aura été gagné parce que il appartiendra ensuite à certains interlocuteurs de se lancer dans la philosophie, de faire des hypothèses, d'explorer leurs conséquences, de vérifier s'il n'y a pas des contradictions qui surgissent, de remodeler ces hypothèses si nécessité, etc., etc.
Voilà. Alors, ça peut paraître assez abstrait comme définition du désir ou de, comme application de l'éros au sein du dialogue platonicien, mais c'est quand même, en fait, complètement très concret, y compris dans le texte du banquet dont nous parlons, mais aussi dans d'autres textes. Socrate est l'objet de désir, et même lui-même épris de désir pour des interlocuteurs, que ce soit Alcibiade ou autre, ou Charmide, je pense à un autre dialogue de Platon, dans lequel on a une description vraiment physique du désir suscité chez Socrate par Charmide. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement ici dans une idée du désir, une métaphore du dialogue philosophique comme étant l'expression d'un désir. Le désir est peut-être même d'abord, chez Platon, physique. C'est d'abord le désir d'un corps que l'on veut retrouver ou auquel on veut s'unir, qui ensuite peut s'élever à quelque chose de plus intellectuel.
Oui. De toute façon, la dimension du corps, elle est permanente. Hein, et puis d'ailleurs, c'est l'art même du dialogue y invite, puisque nous avons affaire à des personnages qui sont toujours en situation, qui sont toujours précisément incarnés. Ce n'est pas un traité, ce n'est pas un discours qui est séparé de la personne qui le tient et qui est séparé aussi de la personne à qui il est adressé. Donc nous sommes dans des situations de discussion qui sont des situations où les personnages parlent avec tout ce qu'ils sont. Et ce qui les constitue en partie, c'est aussi leur corps, évidemment. Et donc, de ce point de vue-là, le désir est inhérent à la parole du dialogue. Voilà. Alors après, ce désir est lui-même de nature évolutive. Il change, il se transforme, il se métamorphose. Il y a des métamorphoses du désir chez Platon. C'est ça qui est aussi intéressant. Et les grands dialogues consacrés à Eros sont des dialogues qui parlent de ces métamorphoses, de ces transformations, hein, qui doivent aussi nous faire corriger une image assez répandue de la philosophie platonicienne, selon laquelle ce dernier, Platon, se ferait l'avocat d'un amour purement étranger au corps. Pas du tout. Il suffit d'ouvrir les dialogues de Platon pour s'apercevoir que le corps et les désirs qui naissent du corps sont toujours là. Je dis désirs qui naissent du corps parce qu'en réalité, les désirs sont les désirs de l'âme. Mais il y a, du fait même qu'elle est dans un corps, des désirs qui sont marqués par la présence de ce corps. Et ça, c'est constant, évidemment, dans l'œuvre de Platon.
Et alors, on peut se demander pourquoi, dans la bouche de Socrate en tout cas, parce que ses interlocuteurs ne sont pas tous d'accord, hein, c'est le propre du banquet que de proposer différentes définitions d'Eros, à travers les éloges qu'ils vont prononcer à son égard, pourquoi est-ce que l'amour ou le désir homosexuel est privilégié par Socrate? Et en fait, il apporte des arguments assez clairs. C'est tout simplement que l'amour ou le désir envers un autre homme n'a pas pour but de procréer de manière physique, mais de féconder peut-être un autre esprit d'une manière plus intellectuelle ou plus artistique. Est-ce que c'est l'argument qu'il avance, Fulcran Tesserin?
Oui, c'est tout à fait l'argument qu'il avance. Alors, il y a évidemment un contexte culturel. L'Athènes du 5e et du 4e siècle est une Athènes qui connaît cet amour homosexuel et il est de tradition que l'Éraste s'attache à l'Éromène, c'est-à-dire l'amant s'attache à l'aimé, et qu'il y ait dans cette relation entre un adulte et un adolescent ou un jeune homme, il y ait dans cette relation-là une part d'enseignement, une part de formation.
Une pédagogie
au sens strict du terme. Ouais. Hein. L'aîné conduit le plus jeune. Et le conduit sur les chemins non seulement de la vie, mais également de la politique et du savoir.
Et du désir.
Et aussi du désir, il forme son désir.
Il y a une pédagogie de l'érotique quand même.
Il y a une pédagogie, parce qu'il y a, alors c'est dans le Phèdre, hein, où l'amour de l'amant pour l'aimé va créer un contre-amour de l'aimé pour l'amant. Voilà, il y a une sorte de reflet, de réciprocité de la relation amoureuse qui est le fruit du temps. C'est-à-dire que au départ, c'est simplement l'amant qui aime l'aimé, mais à l'usage, il va y avoir une réciprocité qui va s'établir.
Tous les êtres humains sont féconds dans leur corps et dans leur âme. Quand nous sommes arrivés au terme, notre nature éprouve le désir d'enfanter. L'union de l'homme et de la femme permet l'enfantement, et il y a dans cet acte quelque chose de divin. Voilà bien en quoi, pour l'être vivant mortel, réside l'immortalité, dans la grossesse et la procréation. L'amour de ce qui est beau, c'est l'amour de la procréation et de l'accouchement. Il a donc nécessairement pour objet l'immortalité. Ceux qui sont féconds selon le corps se tournent vers les femmes, et leur façon d'être amoureux, c'est de chercher, en engendrant des enfants, s'imagine-t-il, l'immortalité, le souvenir et le bonheur pour la totalité des temps à venir. Il y a aussi ceux qui sont féconds dans l'âme. Il en est qui sont plus féconds dans leur âme que dans leur corps, cherchant à s'assurer l'enfantement de ce qui est contenu dans l'âme, comme les poètes, les artisans, les hommes de justice ou ceux qui forment les lois des cités. Quel étrange texte fulcrantesserin que celui un extrait du Banquet de Platon. Ouais, on apprend quand même que il y a pas d'érotique sans désir d'enfanter, et que d'enfanter soit au sens propre du terme de procréer, donc désir hétérosexuel envers une femme pour l'homme, soit désir d'enfanter, de produire des œuvres d'art, de produire des œuvres de l'esprit, donc désir d'un homme pour un homme.
Oui, c'est un texte tout à fait singulier à plusieurs égards. D'abord, quand on veut le rattacher à la thèse générale selon laquelle le désir se porte sur quelque chose qui est absent, qui n'est pas donné, dont on est privé, la question de l'immortalité s'introduit de façon latérale, dans la mesure où Socrate, enfin Diotime, souligne le fait que ce que nous désirons, c'est évidemment cette chose que nous ne possédons pas, et nous désirons l'avoir, et l'avoir pour toute la durée du temps. Et on pourrait se dire à ce moment-là, très bien, nous voulons posséder cette chose-là pendant tout le temps où nous vivons. Mais curieusement, Diotime en tire la conséquence que c'est l'immortalité même que nous chercherions. Et c'est pas tout à fait logique de passer de cette forme de désir qui consiste à vouloir posséder quelque chose pendant tout le temps de la vie et désirer l'immortalité, c'est-à-dire une vie qui elle-même ne s'arrête jamais. Alors, il y a une solution, à mon avis, qui permet de comprendre le passage de l'un à l'autre. Ça consiste à dire tout simplement que la vie fait partie de ces biens que nous désirons. Et si la vie fait partie des biens que nous désirons, ben nous désirons toujours la vie, et donc nous désirons que la vie se perpétue indéfiniment.
Est-ce qu'on peut avoir un rapport érotique à l'existence elle-même ?
Eh bien, ce désir, c'est le désir de vie parce qu'on sait que la vie est précaire. Parce qu'on sait qu'elle peut
nous manquer.
Qu'elle peut nous manquer, qu'elle peut nous faire défaut. Et ce qui m'amène à la deuxième singularité de ce texte, qui est que la seule manière que nous ayons de participer à l'immortalité, c'est d'enfanter. Et si on le prend à la lettre, ça signifie que nous ne sommes pas mortels. Immortels. Nous ne sommes pas immortels, nous sommes fondamentalement mortels, et la seule façon de reculer les frontières de la mort, c'est de laisser du neuf à la place de l'ancien.
Mais si ça, possible. Rien de surprenant à ça, personne ne doute de sa mortalité. Si.
Personne ne doute de sa mortalité, mais enfin c'est une thématique assez connue chez Platon, que l'âme est immortelle. Donc on a là un texte tout à fait singulier qui sous-entend de façon très claire que l'âme est mortelle. Puisque la seule manière de participer à l'immortalité, c'est d'enfanter, de laisser quelque chose après soi. Et j'en arrive à la troisième étrangeté de ce texte, qui est que non seulement ce processus de renouvellement existe, à la fois sur le plan du corps et sur le plan de l'esprit, et consiste à laisser quelque chose après soi, mais il existe aussi à l'intérieur du corps et à l'intérieur de l'esprit. L'enfantement n'est pas simplement quelque chose qui consiste à produire quelque chose hors de soi. C'est aussi une manière de renouveler ce qui est en soi, parce que ce qui est en soi est emporté par le flux du devenir. Et donc les parties du corps se renouvellent, grâce à l'alimentation en particulier. Le corps se maintient par ce constant échange de l'ancien qui laisse la place au neuf, et de même pour l'esprit. Les connaissances doivent également se renouveler. L'effort de la mémoire consiste à substituer un souvenir neuf qui va prendre la place d'un souvenir ancien. Et donc, il y a cette tension perpétuelle du vivant qui se maintient dans l'être par le renouvellement constant de ses parties, aussi bien sur le plan du corps que sur le plan de l'esprit. Donc ça, c'est aussi la troisième étrangeté de ce texte. Et puis, alors évidemment, il y a l'idée, là, beaucoup plus classique, que nos enfants nous perpétuent. Mais nous perpétuent non seulement, je dirais, parce que ils sont là et ils sont là pour occuper notre place une fois que nous serons partis, mais en outre, ils vont, et c'est pour ça que même la génération sur le plan physique n'est pas strictement de l'ordre du corporel, ils vont maintenir notre mémoire. C'est grâce à eux que nous pourrons rester dans le souvenir. Évidemment, les enfants sont les plus indiqués pour garder trace de nous. Et puis, évidemment, il y a une autre technique possible, un autre art à la disposition des hommes, c'est de créer une œuvre, qu'elle soit politique, qu'elle soit poétique, ou encore peut-être philosophique, grâce à laquelle nous gagnerons l'immortalité de la gloire.
Mais de même que Socrate lui-même se met dans la position de l'accoucheur, celui qui accouche les âmes, et donc c'est pas le propre de la femme que d'accoucher, de même les femmes aussi pourraient en droit avoir accès à ces œuvres de l'esprit.
Ah, rien ne l'interdit.
C'est ça. Mais oui, ah, mais il faut aller contre quand même une certaine conception d'un Socrate archaïque, oui, qui privilégie non seulement l'homosexualité sur l'hétérosexualité, mais aussi le travail masculin de l'homme sur le travail féminin qui, elle, serait réduit à une forme d'accouchement, oui, de grossesse et de procréation, c'est ce qui est dit dans ce texte.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est que précisément, les hommes aussi sont susceptibles d'être enceintes.
C'est ça.
Ce qui est le propre de la femme se retrouve chez l'homme, et on pourrait dire aussi que ce qui serait culturellement le propre de l'homme peut se retrouver chez la femme. Dans le banquet, il n'est pas dit grand-chose à cet égard, mais dans la République, oui, c'est très clair. Par exemple, dans la République, les femmes sont appelées à exercer strictement les mêmes fonctions que les hommes. Elles peuvent être aussi philosophes, elles peuvent être aussi dirigeantes de la cité. On peut présumer que, du coup, elles sont également fécondes du point de vue de l'âme. Et donc, elles peuvent laisser des œuvres de l'esprit.
On va entendre un autre texte du banquet, mais cette fois-ci prononcé par Aristophane, qui est une manière d'essayer de retracer l'origine même du désir, parce que c'est toujours le sujet de cette émission et du banquet de Platon. Cette fois-ci, Aristophane propose un mythe qui permet de penser cette absence de différence de nature entre l'homme et la femme, et surtout cette universalité du désir pour autrui, dans une conception vraiment, là pour le coup, du désir qui consiste à chercher sa moitié. Mmh. Écoutez comment Aristophane raconte l'origine de l'humanité, ce qui lui est arrivé et ce pourquoi nous passons notre vie à désirer, à chercher quelque chose que peut-être nous n'allons jamais trouver.
Il faut d'abord que vous appreniez à connaître la nature humaine et ses transformations. Jadis, notre nature n'était pas ce qu'elle est à présent. Elle était bien différente. D'abord, il y avait trois espèces d'hommes, et non deux comme aujourd'hui. Le mâle, la femelle, et outre ces deux-là, une troisième composée des deux autres. Le nom seul en reste aujourd'hui, l'espèce a disparu. C'était l'espèce androgyne. Et ces trois espèces étaient d'une force et d'une vigueur extraordinaires. Et comme ils avaient de grand courage, ils attaquèrent les dieux. Et ce qu'Homère dit d'Éphialte et d'Otos, on le dit d'eux, à savoir qu'ils tentèrent d'escalader le ciel pour combattre les dieux. Alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à prendre. Le cas était embarrassant. Il ne pouvait se décider à tuer les hommes et à détruire la race humaine à coups de tonnerre comme ils avaient tué les géants. D'un autre côté, il ne pouvait non plus tolérer leur insolence. Enfin, Jupiter, ayant trouvé non sans peine un expédient, prit la parole. « Je crois tenir le moyen de conserver les hommes tout en mettant un terme à leur licence. C'est de les rendre plus faibles. Je vais immédiatement les couper en deux l'un après l'autre. Nous obtiendrons ainsi le double résultat de les affaiblir et de tirer d'eux davantage puisqu'ils seront plus nombreux. Or, quand le corps eut été ainsi mal divisé, chacun, regrettant sa moitié, allait à elle, et s'embrassant et s'enlaçant les uns les autres avec le désir de se fondre ensemble, les hommes mouraient de faim et d'inaction parce qu'ils ne voulaient rien faire les uns sans les autres. Et quand une moitié était morte et que l'autre survivait, celle-ci en cherchait une autre et s'enlaçait à elle, et la race s'éteignait. Alors Zeus, touché de pitié, imagine un autre expédient. Il transpose les organes de la génération sur le devant. Cette disposition était à deux fins. Si l'étreinte avait lieu entre un homme et une femme, ils enfanteraient pour perpétuer la race. Et si elle avait lieu entre un mâle et un mâle, la satiété les séparerait pour un temps, ils se mettraient au travail et pourvoiraient à tous les besoins de leur existence. C'est de ce moment que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres. L'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine. Chacun de nous est donc comme une tessère d'hospitalité. Puisque nous avons été coupés comme des sols et que d'un nous sommes devenus deux, aussi chacun cherche sa moitié.
Et oui, et si l'érotisme n'était autre chose que le jeu qui consiste à tenter de chercher sa moitié, c'est l'hypothèse proposée par Aristophane dans le texte que nous venons d'entendre sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Il est 10h32, nous parlons d'érotisme cette semaine et aujourd'hui du dieu Eros chez Platon en compagnie du philosophe Fulcran Tesserin. Voilà ce que nous propose Aristophane. À l'origine, nous étions des boules. Mâle, femelle ou androgyne, et puis Jupiter a puni ces boules en les divisant en deux, en les coupant comme des sols, est-il dit, comme des poissons. Et désormais, nous nous errons à la recherche de cette moitié qui est parfois du même sexe que nous, parfois du sexe opposé, peu importe. Mais voilà pourquoi nous sommes traversés par le désir, et voilà de quoi ce désir est le nom d'une recherche, d'une unité originaire. On est en pleine conception romantique ici, Fulcran Tesserin.
Oui, en tout cas, c'est certain que ce mythe que Platon offre à Aristophane. Il faut quand même remarquer ici la générosité extraordinaire de Platon, puisqu'il met dans la bouche d'Aristophane un des mythes les plus fameux qui soit sorti de son imagination.
Et c'est Platon qui invente ce mythe.
Ah oui. Oui. Enfin, on n'en a pas de trace avant lui. Et ce mythe, alors ce mythe est intéressant, comme beaucoup de mythes chez Platon, il y a un épisode de rébellion et puis les dieux qui interviennent pour corriger ce qui ne va pas dans la nature. Et il faut qu'ils s'y reprennent à deux fois. C'est assez constant dans les mythes de Platon. Les interventions divines correctrices sont toujours doubles. Et donc, il y a la première intervention qui vise à châtier la créature impudente et orgueilleuse qui cherche à déloger les dieux de la place où ils sont. Et ce châtiment, on les coupe en deux et du même coup, chaque moitié recherche sa part manquante. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que le résultat auquel ça aboutit est un petit peu décevant pour Zeus. Parce qu'il pensait que, d'une part, ça permettrait de rabattre son caquet à cette créature orgueilleuse, d'autant plus que la coupure se faisant par le devant et le visage qui était derrière étant déplacé par Apollon devant, du coup donne à voir à chacune de ces créatures la moitié, enfin le lieu par lequel le fil de crin est passé et a découpé la créature originaire en deux parties. Donc incitation à l'humilité.
Et même si ensuite les organes procréateurs vont être déplacés,
mais ensuite un premier temps, les organes sexuels étaient derrière, ils n'ont pas changé de place. Zeus comptait, finalement, était assez content de son opération parce qu'il s'est dit, au moins, d'une part, les ramène à leur juste mesure, et d'autre part, je multiplie par deux le nombre de gens qui vont me vouer un culte. Donc, pour lui, l'opération est doublement bénéfique. Sauf que chacune des parties, quand elle retrouve sa part manquante, du fait de la conjonction trop absolue entre ces deux parties complémentaires, dépérissent. Ces parties-là, quand elles se retrouvent, dépérissent, elles languissent, elles meurent d'inanition. Bon.
Parce qu'elles puissent pour le désir, c'est ça?
Parce que elles sont tellement attachées l'une à l'autre, l'une est tellement, je dirais, occupée par l'autre, que du même coup, il n'y a rien d'autre à faire que d'être dans cette unité redevenue indivise. Bon, une forme d'autisme, pourrait-on dire.
Un autisme, ou de fusion absolue.
Ou de fusion complète condamne à la mort. Qui condamne à la mort. Et c'est pour arracher à cette mort que la sexualité est introduite. Parce que jusqu'alors, il y avait bien des organes génitaux, mais ceux-ci n'avaient pas de fin reproductive. Et maintenant qu'ils vont être mis sur le devant, les deux parties vont pouvoir s'unir sexuellement. Et donc, quand on lit rapidement le mythe, on se dit « Ah, très, très bien, l'union sexuelle est une sorte de façon de retrouver l'unité originaire. » Mais en réalité, c'est un subterfuge, c'est un dispositif assez astucieux par lequel, au contraire, on détend le désir d'union. Hein, puisque les deux parties vont se réunir, vont s'accoupler, mais le désir va obtenir une sorte de satiété, et à ce moment-là, chacune des parties va pouvoir retrouver une forme d'indépendance et se livrer à autre chose qu'au plaisir de l'union retrouvée.
Alors, il est écrit ceci, hein, donc Zeus, touché de pitié, transpose les organes de la génération sur le devant. Cette disposition était à deux fins. Si l'étreinte avait lieu entre un homme et une femme, ils enfanteraient pour perpétuer la race. Et si elle avait lieu entre un mâle et un mâle, la satiété les séparerait pour un temps. Ils se mettraient au travail et pourvoiraient à tous les besoins de l'existence. C'est de ce moment que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres. L'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine. Il est bien dit, comme vous l'avez souligné, Fulcran Tesserin, que la satiété les sépare pour un temps et ils se mettent au travail et pourvoient à tous les besoins de l'existence. On est ici dans une conception quasiment à la fois vitale et hygiéniste de la sexualité. Il faut satisfaire ce désir qui nous fait tendre vers l'autre pour ensuite pouvoir s'occuper d'autre chose.
Exactement. Et éventuellement pour se livrer à d'autres formes d'amour, hein, que celle de l'union sexuelle. Mais ouais. Ce qui est intéressant, c'est que l'union sexuelle est en quelque sorte une imitation de l'union originaire, mais qui évite les pièges de ce que j'appellerais l'autisme, hein, de cet enfermement dans le même. Et du coup, on va pouvoir accéder à une activité qui ouvre les individus à autre chose que leur propre unité ou identité.
Donc c'est grâce à la sexualité que le retrouvaille entre les deux moitiés de la boule ne conduise pas à la mort. La sexualité permet de à la fois de produire une tension et de la détendre.
Et de la détendre et de sortir, hein, de cette relation fusionnelle et complémentaire. Et éventuellement, ensuite, de réinvestir cette énergie alors dans le travail.
C'est quasiment freudien, là, pour
lui.
Oui,
ça, les métaphores hydrauliques chez Platon, on les trouve partout. Hein. Donc, il y a ce déplacement possible. Et puis, il y a aussi l'idée, alors qui est suggérée au début de ce texte, et puis qui est développée par la suite, qui est que, évidemment, les hommes et les femmes sont assignés à une tâche en tant que praticien de l'amour hétérosexuel, qui est la reproduction de l'espèce, et puis ceux qui sont du même sexe, eh bien peuvent, pour leur part, se livrer aux activités de l'esprit, aux activités de la politique, etc. Donc là, il y a aussi dans ce discours-là, hein, l'idée que les différents amours ont différentes fonctions.
Et là, on est en plein dans la définition de ce qu'on appellerait l'érotisme aujourd'hui, qui n'est pas une pratique qui vise à une fin. Au contraire, on a une conception plutôt gratuite. L'érotisme, c'est jouer avec son désir. C'est pas du tout se reproduire ou enfanter, que ce soit une œuvre de l'esprit ou un être humain. Le mythe d'Aristophane permet de penser un rapport à la sexualité qui est plus celui d'une forme de passage nécessaire pour ensuite faire autre chose, qui correspond presque à des pulsions. C'est vrai que le vocabulaire freudien arrive assez vite quand on lit ce texte.
Oui, pour faire autre chose. tout en gardant à l'esprit, alors Aristophane ne s'explicite pas, n'est pas très clair là-dessus, ne rentre pas dans les détails, puis c'est un mythe, hein, donc il ne faut pas non plus surinterpréter le texte, encore que par définition un mythe appelle l'interprétation. Bon, mais évidemment on ne peut pas ici sous-entendre que le désir est un désir qui va se transformer en désir de savoir ou en désir de philosophie. Ce n'est pas dit dans la lettre même du texte, mais après tout, ça ne l'interdit pas non plus. Hein, surtout si on a à l'esprit les autres discours qui sont tenus dans le banquet.
Mais alors là, et ben voilà, justement, il faut passer par une forme de pédagogie du désir pour transformer peut-être ce désir physique en désir d'autre chose. On va entendre un dernier extrait du banquet de Platon. C'est un dialogue entre Socrate et Alcibiade où l'on assiste véritablement à une forme d'érotique pédagogique. Écoutez.
Socrate, tu dors ? Pas du tout, me répondit-il. Alcibiade, sais-tu à quoi je pense ? Socrate, à quoi, au juste ? Alcibiade, je pense, repris-je, que tu es un amant digne de moi, le seul qui le soit, et je vois bien que tu hésites à m'en parler. En ce qui me concerne, voici ce qui en est. J'estime qu'il est tout à fait déraisonnable de ne point céder à tes vœux sur ce point aussi, comme en toute occasion où tu aurais besoin de ma fortune ou de mes amis. Rien, à mes yeux, ne présente plus d'importance que de devenir le meilleur possible. Et j'imagine que dans cette voie, je ne puis trouver maître qui soit mieux en mesure de m'aider que toi. Dès lors, devant ceux qui savent à quoi s'en tenir, je serais beaucoup plus honteux de ne point céder aux vœux d'un homme comme toi que je ne le serais, devant le grand nombre qui ne sait pas à quoi s'en tenir, de céder à ses vœux. Il m'écouta, prit son air de faux naïf qui lui est si caractéristique, et, dans le style qui lui est habituel, il me fit cette réponse. « Mon cher Alcibiade, il y a des chances pour que, en réalité, tu ne sois pas si maladroit. » À supposer toutefois que ce que tu dis sur mon compte soit vrai et que j'ai le pouvoir que j'ai de te rendre meilleur. Tu vois sans doute en moi une beauté inimaginable et bien différente de la grâce que revêt ton aspect physique. Si donc, l'ayant aperçu, tu entreprends de la partager avec moi et d'échanger beauté contre beauté, le profit que tu comptes faire à mes dépens n'est pas mince. À la place de l'apparence de la beauté, c'est la beauté véritable que tu entreprends d'acquérir. Et en réalité, tu as dans l'idée de troquer de l'or contre du cuivre.
Dans l'érotisme de la transmission du savoir, ou de le fait de faire accoucher à son interlocuteur du savoir, telle que cette méthode est mise en œuvre par Socrate, il y a quand même l'idée d'une forme d'échange, mais d'échange inégal, qui passe notamment par la prise en compte de cette beauté physique, lorsque Socrate désire un beau corps, désire d'une beauté morale, lorsqu'au contraire ce beau corps désire Socrate, qui est notoirement laid, donc il sait bien que c'est d'une beauté intérieure qu'il désire. Cette inégalité, elle est dénoncée par la référence même à la beauté. C'est ça qui est intéressant, Fulcran Tesserin.
Oui, parce que la beauté fait naître le désir, fait naître la parole. Donc, de ce point de vue-là, elle est absolument indispensable. En revanche, dans le texte, il est dit qu'il y a un échange qui est impossible.
Ouais. Hein,
c'est les deux beautés. Les deux beautés ne peuvent pas permuter, ne peuvent pas passer de l'un à l'autre comme cela. Ce n'est pas au début du banquet, il y a une autre image qui est donnée, c'est celle du transfert d'un savoir qui passerait d'un vase plein à un vase vide par un fil de laine, hein, et qui s'écoulerait comme cela. Donc c'est la métaphore du plein et du vide qui est contestée évidemment par Socrate, qui dit non, on ne peut pas croire que l'enseignement consiste à transmettre quelque chose que l'on posséderait et que l'autre n'aurait plus que apprendre. Il faut que l'autre soit lui-même l'ouvrier de son propre savoir, et il ne peut être l'ouvrier de son propre savoir qu'à la condition qu'il ait le désir de ce savoir. Donc, de ce point de vue, les beautés restent là où elles sont. La seule chose que puisse faire Socrate pour Alcibiade, c'est que d'éveiller le désir chez Alcibiade de se faire philosophe.
Mais ça, le désir de devenir le meilleur possible.
Le meilleur possible. Et devenir le meilleur possible ne consiste pas à coucher avec Socrate, ça consiste à discuter avec lui et discuter. Et il faut aussi que Alcibiade discute avec lui-même. You give to me, will free me. So if you don't know the things you're dealing, well, I can tell you, darling, or it's sexual healing. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right.
Et oui, la foule en délire que vous entendez, c'est pas celle du studio, mais celle dans la salle de concert de Ben Harper qui chante Sexual Healing pour terminer cette émission. Et pourtant, la foule derrière la vitre est un peu en délire et assez nombreuse ce matin. Je vois les têtes qui hochent. Merci à vous, Fulcran Tétringue, d'être venu nous parler de Platon aujourd'hui. Et de ce demi-dieu qui est Eros, je vous invite, chers auditeurs, à lire Le Banquet de Platon. Ça se lit comme un roman, comme une pièce de théâtre. C'est passionnant. On y découvre plein d'histoires qui nous racontent l'origine même du désir et vous verrez à laquelle vous souscrivez. Le plus Fulcran Tétringue de vous, on peut lire Le Sophiste de Platon aux éditions PUF et L'Engagé Image dans l'œuvre Platon chez Vrin. Oh, 10h48 sur le chemin de la philosophie, sur France Culture. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître. Et aujourd'hui, c'est un livre sur les écrivains qui engage le débat, c'est ça?
Et oui, c'est un tout petit livre, mais qui rassemble 12 grands discours d'hommes de lettres à l'Assemblée nationale du 18e au 20e siècle, de Mirabeau à Malraux. 12 textes d'écrivains qui s'engagent et engagent le débat. C'est par exemple Mirabeau, donc, qui prend la défense du drapeau tricolore le 21 octobre 1791. Chateaubriand, pour qui l'intervention française en Espagne en 1823, alors en plein soulèvement militaire, est légitime et nécessaire selon lui. Ou c'est encore Maurice Barrès en 1911 qui plaide pour la protection des églises en France. Mais voilà, quel est le critère de tous ces textes pour être des textes marquants, si ce n'est qu'ils sont proposés par des écrivains et qu'ils mettent en jeu la question des valeurs françaises? Plus précisément, suffit-il d'être écrivain et qu'un discours porte sur un enjeu politique pour devenir un discours fort? Comment l'écrivain met-il en forme un discours qui se veut contextuel, réactif et actif? Et inversement, ces questions pourraient aussi se poser pour un homme politique, comment peut-il produire un beau discours et pas seulement un discours engagé? Autrement dit, au fil de ces pages, voici ce qu'on se demande, qu'est-ce qui fait qu'un discours va toucher juste, va être entendu et va même entraîner l'adhésion et l'action et va rester dans les mémoires? Alors cela peut tenir à la manière de le dire, à la gestuelle, aux interpellations, ce qui nous échappe ici, mais alors aux procédés rhétoriques, comme par exemple les anaphores de Mirabeau, bien avant celles de François Hollande, les emphases de Victor Hugo ou la gradation, comme celle crescendo d'André Malraux en 1966, alors qu'il était ministre des Affaires culturelles, qu'il défendait les subventions données à la pièce de Jean Genet en faisant non pas une pièce anti-française, mais une pièce anti-humaine et même anti-tout. Mais cela peut aussi tenir à la résonance des sujets traités, à l'actualité des problèmes soulevés, le problème de la liberté de la presse, soulevé par Benjamin Constant dès 1822, ou encore le problème de l'attention du gouvernement à la colère populaire auquel seul Tocqueville pouvait si bien et déjà nous sensibiliser.
Merci Géraldine, c'est donc Les écrivains engagent le débat, le titre du livre.
Exactement, et on trouve ça chez Folio et c'est très peu cher en plus.
2 euros, c'est écrit sur la couverture. Voilà. Merci Géraldine, c'est noté. Merci à tous, à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Olivia Garrigue, Nicolas Bouteloup, Géraldine Mossa Savoie bien sûr, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Jacques Ezubert qui est à la prise de son, Anne Brissier qui est à la lecture des textes, vous avez aussi entendu Georges Clès et Thierry Ancis aujourd'hui, Raphaël et Adrien qui assistaient à cette émission. On se retrouve demain pour la suite de cette série consacrée à l'érotisme. Demain, nous parlerons de la philosophie du sexe en compagnie d'André Comte-Sponville. D'ici là, pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et on vous donne rendez-vous également sur nos comptes Twitter et Facebook où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. À 11h sur France Culture, vous retrouverez Culture Monde présenté aujourd'hui par Tiffaine de Rocchini. Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver votre feuilleton quotidien, La Vie Moderne.